Europe 1. Europe 1,
14h-15h,
On de la traconte.
Bonjour à tous, aujourd'hui le récit d'une aventure, mais pour une fois, ça n'est pas une aventure extraordinaire. Au contraire, c'est une aventure à la portée de tous. Sans doute qu'à la fin d'ailleurs, vous vous demanderez, est-ce que moi aussi je peux faire ça ? C'est le récit d'une aventure vécue par un homme qui est là, en face de moi. Je le salue, bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez Ludovic Escande, vous êtes éditeur chez Gallimard. Et en 2012, parce que vous traversiez une mauvaise passe, vous vous êtes lancé le défi de gravir le Mont Blanc. Alors que vous meniez une vie de patachon à Saint-Germain-des-Prés et que vous aviez par ailleurs le vertige. Cette aventure, vous l'avez vécue avec deux de vos auteurs célèbres. Ce sont eux d'ailleurs qui vous ont traîné là-haut. Sylvain Tesson, l'écrivain aventurier, et Jean-Christophe Ruffin, le romancier académicien. Ça a donné un livre dont nous nous sommes inspirés, bien sûr, pour raconter cette histoire, L'Ascension du Mont Blanc, paru aux éditions Alary. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Voici donc ce récit que j'ai écrit avec Marion Sauveur. Réalisation, Madame Lebras.
Europe 1, Christophe Fondelatte.
Cette histoire commence dans une gargote, près du jardin du Luxembourg, à Paris, un soir d'octobre 2012. L'endroit n'est pas très reluisant, il est dans son jus des années 50, mais peu importe, c'est un endroit où on se sent bien. Et là, au fond, à gauche, il y a deux hommes attablés autour d'une bonne bouteille de Chablis. Le premier, vous le connaissez peut-être, c'est Sylvain Tesson, l'écrivain aventurier qui a parcouru le monde à pied, à cheval, en vélo et qui en tire en général des livres qui font rêver. Et le gars en face de lui, lui vous ne le connaissez pas, mais c'est son éditeur, Ludovic Escande, de chez Gallimard. Lui, son métier, c'est de lire des livres assis derrière son bureau toute la journée et de déjeuner et de dîner avec des auteurs. Avant de rentrer en banlieue, tard le soir, à moto et à toute berzingue. Ludovic boit trop, Ludovic fume trop, Ludovic bosse trop, la vie d'un éditeur parisien. Normalement, quand un auteur dîne avec son éditeur, c'est l'auteur qui parle et l'éditeur qui écoute. Mais ce soir, pour une fois, c'est Ludovic qui vide son sac. Il est au fond du trou. Sa femme est sur le point de le larguer, et puis il en a marre de cette vie à picoler, à enquiller les clopes, à se coucher tard. Bref, il n'a pas le moral.
L'ici dans lequel je vivais était un ici de ville sombre. C'était l'hiver et j'étais en train de vivre un moment douloureux de séparation et je ne voyais pas d'issue dans ce présent et dans cet ici qui était le mien.
Tu vois, Sylvain, ben moi j'aimerais bien être comme toi parfois. Ne pas être prisonnier de ma vie. Partir si je veux, quand je veux. Mais t'irais où ? Ben, haut, j'irais très haut. Respirer un autre air. J'adorerais être capable de grimper les sommets, tu vois le truc ? Sauf que je supporte pas le vide, j'ai le vertige. Et puis j'ai pas la santé. Hein. Arrête ! C'est pas une question de santé, ni une question de force. Écoute-moi bien, tu veux grimper ? Tu veux respirer un autre air ? Eh bien, je t'emmène faire le Mont Blanc.
On va t'emmener au Mont Blanc. Parce que l'alpinisme est une espèce d'absurdité, encore plus absurde que l'absurdité de la vie. Donc, puisqu'il avait une souffrance psychique, moi, je lui proposais une souffrance encore pire. C'est-à-dire venir grimper avec moi.
Le Mont Blanc ? Il est fou, l'autre ! 4810 mètres. Lui qui a peur de monter sur un escabeau. Lui qui n'a jamais fait de randonnée au-dessus de 1200 mètres d'altitude. T'inquiète, hein. Avec un peu d'entraînement, tu y arriveras, je te jure. Sylvain Tesson a déjà gravi plusieurs fois le Mont Blanc. Il pense qu'avec de l'entraînement, c'est à la portée de tout le monde. Surtout avec un bon guide. Et il en a un, le meilleur, Daniel Dulac, une star de l'escalade. Avec lui, je te jure que t'as rien à craindre. Tu arriveras en haut. Et dis donc, si on faisait ça avec Jean-Christophe, il a un chalet à Saint-Gervais en plus. On partira de chez lui. Bon, il n'a pas 20 ans, mais je te jure qu'il a des jambes. Hein. Le Jean-Christophe dont parle Sylvain Tesson, lui aussi vous le connaissez peut-être. Jean-Christophe Ruffin, médecin, diplomate et écrivain, membre de l'Académie française s'il vous plaît. Lui aussi est un auteur édité par Ludovic. Bon, ben voilà, maintenant la bouteille de Chablis est vide et il n'y a plus qu'à. Les deux se serrent la main au-dessus de la table, top là, on fera ça en juillet. Ça laisse donc 8 mois pour se préparer. Et il s'y colle dès le lendemain.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un pari fou que se font deux copains un soir autour d'une bonne bouteille dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le premier est un aventurier célèbre, Sylvain Tesson, et le second est son éditeur, Ludovic Escande, de chez Gallimard. Ludovic est dans une mauvaise passe. Il est en instance de divorce, il fume trop, il boit trop, il ne dort pas assez. Une vie de barreau de chaise, une vie de parisien. Sylvain Tesson lui propose alors un défi, gravir le Mont Blanc. Mais l'autre a le vertige, tant pis. Ça se dompte le vertige. Ils feront ça à trois, avec l'écrivain Jean-Christophe Ruffin. Banco ? Banco. Ludovic a maintenant 8 mois pour se préparer. Et là, je vous le dis tout de suite, le lendemain, il regrette. Il ferait bien marche arrière, il se chercherait bien des excuses, il est en instance de divorce. Et puis, il faut qu'il déménage, il s'est trouvé un petit appart. Mais bon, il a promis. Donc, il s'y colle. C'est Sylvain Tesson qui lui cale son programme d'entraînement. Alors, tu commences tous les matins par de la gymnastique, des pompes et des tractions. Ok ? Mais c'est pas tout. Il faut que tu cours aussi, au moins 2 fois par semaine, 1 heure à chaque fois. Tu peux quand ? Eh bien, le mercredi soir et puis le week-end. Excellent. 2 fois par semaine, hein ?
Va donc pour 2 fois par semaine, dans la forêt de Montmorency avec sa lampe frontale quand il fait nuit. Ludovic s'accroche. Mais à côté de ça, il n'a pas trop le moral. Il ne digère pas la séparation avec sa femme. Alors il court, c'est vrai, il fait des pompes tous les matins, mais tous les jours, il prend des médocs aussi. Pas des médocs pour lesquels il faut une ordonnance. Des antalgiques en vente libre. Du Doliprane, de l'Advil, de l'aspirine et du Fervex pour dormir. Oui, ça le fait pioncer, le Fervex. Et puis un jour, il a mal au genou, il va voir le médecin, ce sont des crampes, rien de grave. Sauf qu'il lui raconte tout ce qu'il s'enfile en ce moment. Le docteur est effaré.
Ah mais va falloir arrêter tout de suite ce cocktail de médicaments. Vous avez du mal à dormir, je vais vous donner un vrai somnifère. Pas du Fervex, c'est une folie. Et puis je vais même vous coller sous anxiolytique, ça va calmer vos angoisses. Et puis la cigarette, hein, et l'alcool. Stop, ok ? Ok, ok. Ben non. C'est comme ça qu'il tient, la clope et l'alcool. Alors arrêter, ça va pas être possible. Donc, il n'arrêtera pas jusqu'au Mont Blanc. Ludovic ne sera pas un sportif modèle. Et il peut supposer que Sylvain ne l'enquiquinera pas là-dessus, parce que il est pareil. Ça n'est pas un modèle de vie saine non plus. Et puis, à un moment donné, il faut bien s'entraîner en montagne. Rendez-vous à Chamonix en juin 2013 avec Sylvain Tesson. Et là, la veille, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent des pâtes, ils vont se coucher tôt ? Vous n'y êtes pas. Je vous ai dit qu'ils n'étaient pas sages. Ils passent la soirée dans un bar à tapas à picoler comme des soudards. Et ils rentrent à 2h du mat, sous comme des cochons. Mais le lendemain, faut y aller. Ludovic est venu les mains dans les poches. Sylvain lui prête tout le matériel. Le piolet, les chaussures de montagne, jusqu'au t-shirt en microfibre. Sauf qu'ils font deux tailles de différence.
Eh bien, comme ça, tu ne seras pas serré.
Et les voilà partis. Mais où est Jean-Christophe Ruffin? Eh bien, il les attend chez lui, dans son nid d'aigle, son chalet perché à 1500 mètres d'altitude au-dessus du village de Saint-Gervais-les-Bains. Vue directe sur la voie royale, la plus belle des voies pour accéder au sommet du Mont-Blanc. Et c'est là aussi qu'il retrouve le guide Daniel Dulac. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se coucher? Bien sûr que non. Pas le genre de la maison. Il y a une pizzeria pas loin. Eh bien, ils y passent toute la soirée. Le Génépi, vous connaissez? C'est la gnole du coin. Ça dégraisse bien la tête. Le lendemain, le réveil sonne pourtant à 6 heures. Début de l'entraînement en montagne. Au programme, la pointe percée, au-dessus du Grand Bornand, à 2752 mètres d'altitude. Sylvain et Daniel prétendent que c'est facile. Tu parles? Dès qu'ils attaquent la montée, Sylvain et Daniel prennent le large et derrière. Ludovic, il rame, mais il s'accroche. Et puis apparaissent les premiers névés, cette neige accrochée à l'herbe. Et puis la neige devient de plus en plus verglacée. Et là, Ludovic a la trouille. Qu'est-ce qu'il fait? Vous le connaissez maintenant. Discretos, il gobe un anxiolytique. Pas vu, pas pris. Indécrottable. Et finalement, quand un peu plus haut, il faut enfiler les chaussons d'escalade, mettre le baudrier et tout le toutim, l'anxiolytique, eh bien ça l'aide. Il arrive en haut sans souffrir du vertige. Et il arrive même à apprécier la vue. Pas mal. Mais un peu plus loin, à un moment sur une arête, il dérape. Il se rattrape tout juste. Daniel le tient par le baudrier. Et là, la panique qui monte. Le cœur qui s'emballe. Il transpire. Il a du mal à respirer. Le souffle court. Il se dit qu'il va mourir maintenant. Daniel, le guide, a compris.
Assieds-toi, allez. Je vais mourir. Il faut appeler un hélicoptère. Mais non, Ludovic, ça va. Calme-toi. Tout va bien.
Alors il boit un coup et Daniel lui dit.
Il ne peut rien t'arriver. Mais comme c'est la première fois, ton corps réagit, c'est logique. Il y a deux solutions. Et là, c'est toi qui décides. Hein. La première, c'est qu'on redescend en tirant des rappels jusqu'en bas. Mais bon, si on fait ça, ça veut dire que pour le Mont-Blanc, c'est râpé. La deuxième, c'est que tu laisses passer la crise et on continue. On va à la pointe percée qui est juste au-dessus. On avance à ton rythme et on y est dans, allez, moins d'une heure. Ludovic respire. Il se remet à marcher. Il veut arriver en haut. Et tiens, hop, un petit cacheton. Et c'est reparti. Il grimpe jusqu'au moment où Ludovic se met à nouveau à paniquer. Ça le reprend. Il ne tient plus. Et il tombe. Il fait une chute de 3 mètres dans le vide. Heureusement, à l'autre bout de la corde, il y a Daniel. Plus de peur que de mal. Et les voilà au sommet de l'aiguille percée. Ouf ! Ludovic est à bout de force, il est à bout de nerfs, il tremble, il a envie de pleurer, tous les sentiments se mêlent, mais il est en haut. Un petit quart d'heure au sommet et ils descendent tous les trois en rappel le long des rochers qu'ils viennent d'escalader avec une facilité déconcertante. Et au bout, le refuge et quelques bières. Et en bas, le trio retrouve Jean-Christophe Ruffin pour fêter ça, évidemment. Le premier sommet de Ludovic, ça se fête ! Jusque tard dans la nuit. Les jours qui suivent, Ludovic, Sylvain, Jean-Christophe et Daniel multiplient comme ça les sorties pour que Ludo s'habitue au niveau d'oxygène plus faible. Et maintenant, le Mont Blanc.
14h-15h, On de l'être raconte sur Europe 1. Europe 1,
On de l'être raconte.
Je vous raconte aujourd'hui le pari fou que se lance en 2013 un éditeur de chez Gallimard, Ludovic Escande, grimper en haut du Mont Blanc. Lui qui est paralysé par le vertige. Il le fera avec deux de ses auteurs, l'aventurier Sylvain Tesson et l'écrivain Jean-Christophe Ruffin. Pendant 8 mois, Ludovic, qui menait une vie de parisien, clope et picole, s'entraîne quotidiennement. Et fin juin, il effectue quelques randonnées sur le massif du Mont Blanc pour s'acclimater. À plusieurs reprises, Ludovic est paralysé par le vertige, qu'il domine en gobant des anxiolytiques. Ludovic Escande sera là tout à l'heure pour débriefer ce récit. Et en attendant, c'est le grand jour.
Qu'est-ce que ça représente pour moi, le Mont Blanc? C'est quelque chose que je m'étais interdit. Et quand tu transgresses cet interdit, et que des amis te disent « non, tu peux le faire », pendant 30 ans, je me suis dit « c'était pas possible ». Et donc tu imagines ce que ça peut représenter quand on te dit « mais si c'est possible, et d'ailleurs on va y aller ». C'est un rêve, quoi.
Il est 7h du matin. De la fenêtre du chalet, Ludovic regarde la voie royale. C'est la route qu'ils vont emprunter, aujourd'hui, pour grimper jusqu'au sommet du Mont Blanc. Et c'est parti. Pour l'approche, ils empruntent le vieux tramway à crémaillère, tout en bois, qui relie Saint-Gervais-les-Bains au col du Nid d'Aigle, à 2372 mètres d'altitude.
Il fait plus chaud que prévu, on attendait un peu froid plutôt aujourd'hui. Là, il y a quelques nuages résiduels, mais ça va se lever dans la journée. Donc, faut qu'on monte tranquille, quoi. Pas qu'on transpire trop, qu'on se déshydrate, ça va aller.
En haut, Ludovic, Sylvain, Jean-Christophe et Daniel, le guide, sont accueillis par un épais brouillard. Et c'est parti direction le refuge de la Tête Rousse, par le glacier du Bionacé. Et donc d'entrée, ils chaussent les crampons. Et ça commence mal, parce qu'assez vite, Ludovic a mal aux pieds. Une douleur au talon gauche. Il aurait mieux fait de s'acheter des chaussures. Celles que Sylvain lui a prêtées sont trop grandes. Du 43, alors qu'il chausse du 41. Pour compenser, il a mis 2 paires de chaussettes de laine. Forcément, ça frotte. Il est en train de se faire une belle ampoule, mais il ne dit rien. Il avance dans les pas de Daniel.
Impressionnant. Mais être dans les traces de Daniel et suivi par Sylvain et Jean-Christophe, c'est... Je trouverai les mots là-haut, à mon avis.
Sur le glacier, ils s'encordent les uns aux autres. Ludovic est désormais relié à Sylvain, pour le meilleur et pour le pire. Le risque, ce sont les crevasses. À un moment, Sylvain, toujours un peu casse-cou, arrive à convaincre le groupe de couper, de ne pas prendre le chemin classique, de couper à travers les rochers, par une paroi verticale. Mais le raccourci de Sylvain s'avère piégeux. Des pierres peuvent se décrocher à tout moment et créer une avalanche de cailloux. Qu'à, ça passe. Et les voilà à l'heure du déjeuner au refuge de la Tête Rousse. Ludovic tordrait bien le cou à Sylvain. Ce raccourci, Sylvain, quelle idée! L'étape d'après consiste à rejoindre le refuge du Goûter. 1200 mètres de dénivelé. Et pour ça, il va falloir passer par le couloir du Goûter. Ludovic ne le sait pas, mais on l'appelle le couloir de la mort. C'est un passage étroit, recouvert de neige, long de 300 mètres. Il y a eu beaucoup d'accidents, ici. Les dangers, ce sont les pierres qui se détachent au-dessus et qui peuvent débouler sur les gars en dessous, comme des boulets de canon. Le long de ce couloir, il y a un câble tendu. Et la technique, c'est de s'accrocher au câble et de courir le plus vite possible. Et c'est parti. Ludovic est le premier du groupe à se lancer. Daniel lui accroche son baudrier, il vérifie ses crampons. 3, 2, 1, c'est parti. Ludovic court, il court dans la neige. Au bout de 10 mètres, il dérape. Daniel lui crie « Continue, continue !» Et ça passe. Ils sont maintenant à 3600 mètres d'altitude. Et avec l'altitude, Ludovic s'épuise plus vite. Et plusieurs fois, il demande à Daniel de s'arrêter.
Et donc régulièrement, ils se font doubler par d'autres alpinistes. Quant à Sylvain et Jean-Christophe, ça fait longtemps qu'ils ont pris le large.
Rendez-vous au refuge !
Le refuge. Le refuge. En attendant, Ludovic a de plus en plus mal à son pied gauche. Mais bon, c'est pas le moment. On verra en haut quand on enlèvera les chaussures. Ludovic et Daniel arrivent au refuge à 19h. Ludovic enlève ses chaussures. Il a le talon gauche à vif. Daniel lui pose un pansement double peau et lui donne quelques granules d'homéopathie pour qu'il souffre moins. Et au pieu. À 20h30, tout le monde est déjà dans son sac de couchage. Sauf Sylvain Tesson, bien sûr. Il est tombé sur des Russes. Et qui dit Russe ? Dit bouteille de vodka. Sylvain n'est pas homme à se coucher à 8h30 du soir. Mais peut-être aurait-il dû, parce que le lendemain, le réveil sonne à 2h. 2h du matin. Un petit déjeuner rapide et à 3h, les voilà dehors tous les quatre. Moins 18 degrés. Des rafales de vent à décorner un bœuf. Mais c'est parti pour l'ascension finale. C'est aujourd'hui que l'éditeur parisien va vaincre son vertige. Dans quelques heures, il sera au sommet du Mont Blanc.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'aventure personnelle qu'a vécue Ludovic Escande, un éditeur parisien sujet au vertige et qui, en 2013, se lance dans un pari fou, gravir le Mont Blanc avec deux de ses auteurs, l'aventurier Sylvain Tesson et l'écrivain Jean-Christophe Ruffin. Ludovic Escande, qui sera là dans un instant avec moi pour débriefer cette aventure qu'il a racontée dans un livre paru aux éditions Alary. Je vous ai raconté son entraînement pendant 8 mois. Et nous en étions au moment où le trio, accompagné par le guide Daniel Dulac, après une nuit au refuge du Goûter, s'élance vers le sommet du Mont Blanc. Il est 3h du matin, il fait moins 18 degrés. Ludovic s'encorde avec Daniel, le guide, et il allume sa lampe frontale parce qu'il fait encore nuit. Et assez vite, ce fichu pied gauche se remet à le faire souffrir. À 4000 mètres, l'oxygène se fait plus rare. Ludovic a le souffle court. Et la température baisse encore. Moins 20 degrés. Et toujours ces fichus rafales de vent. À 5 heures, l'équipe parvient au refuge Valo. 4362 mètres d'altitude, le temps d'une barre de céréales, et après, c'est l'arête des bosses, la dernière voie avant le sommet. Bien raide. Ludovic se concentre, il ne regarde pas derrière lui, il vaut mieux. Les 200 derniers mètres durent une éternité. Et soudain, l'arrondi du sommet du Mont Blanc. Tesson et Ruffin, bien sûr, avaient pris de l'avance, ils sont là pour accueillir Ludovic.
L'arrivée au sommet du Mont Blanc de l'Escande. Et du lac. C'est excellent.
Alors,
les super conditions.
On est arrivé.
Ouais.
Merci.
Comme une lettre à la poste. Quelle heure est-il? 7h15, on a mis
4h.
3h45. C'est bon, hein, 3h45.
Ouais. Il l'a fait. Il a réussi. Il a vaincu son vertige. Le ciel est bleu, l'horizon est complètement dégagé. La vue est extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'ils font, tous les quatre? Enfin, vous les connaissez depuis le temps. Eh bien, ils font tourner une bouteille de cognac. Et Sylvain s'allume un cigare. Et Ludovic porte un toast. À l'alpinisme gonzo! Le vent se lève, il faut repartir et il faut redescendre. Au début, l'euphorie du sommet fait son petit effet, mais à 300 mètres du refuge Valo, retour des angoisses qu'il faut dompter encore et encore.
et passé le refuge de la tête rousse, retour de la douleur aux pieds. Qu'importe, ils s'élancent tous les quatre sur les fesses dans un grand couloir large comme une piste de ski. Et voilà, Ludovic Escande, le Parisien de Saint-Germain-des-Prés, qui fumait trop, qui picolait trop et qui avait le vertige, a gagné son pari fou.
Qu'est-ce que vous avez trouvé là-haut ?
D'abord une reconquête de moi-même, de l'estime de moi. Et puis, j'ai trouvé aussi un sens très fort à l'amitié. Les liens d'amitié, quand ça ne va pas très bien, on peut compter aussi sur les autres. Ça, c'est important.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.
Voilà donc pour cette histoire que nous allons débriefer avec Ludovic lui-même, Ludovic Escande, qui est là avec moi. Et la question qu'on a envie de vous poser tout de suite, c'est où est-ce que vous en êtes 4 ans après par rapport à ça? Est-ce que vous êtes revenu à votre ancienne vie de patachon de Saint-Germain-des-Prés? Ou est-ce que ça a déclenché quelque chose?
Alors je me suis beaucoup calmé, mais je me suis beaucoup entraîné là, j'ai continué à faire de la montagne, j'ai pris le virus en fait, j'ai pris le goût à ça et je continue à escalader et à régulièrement à partir en montagne, même si j'ai encore parfois le vertige, ça a eu au moins cette
vertige. Vous prenez toujours des anxiolytiques?
Écoutez, j'en prends toujours avec moi quand je pars, j'en prends pas forcément quand je grimpe, mais j'ai toujours peur qu'une crise d'angoisse puisse survenir.
Vous avez l'intention d'y retourner un jour sur le Mont Blanc?
Et je vais y retourner cet été probablement. Je vais emmener un cousin, un jeune cousin qui a eu le rêve aussi de le faire et ne l'a jamais fait.
Ah, vous transmettez du coup?
Ouais, je me suis dit c'est ça.
Passage de témoin. Hein.
Exactement. Ouais.
Vous avez escaladé d'autres depuis? Quel genre de montagne?
Alors dans la vallée de Chamonix, on a fait avec Sylvain les grands Charmeaux. Avec Jean-Christophe, on a grimpé aux Aiguilles Rouges. Avec un autre ami, je suis allé grimper la barre des Écrins. Et puis aussi, je vais pas mal m'entraîner avec Sylvain et Daniel au Calanque à Marseille.
Donc il y a une sorte d'équipe qui s'est constituée, ouais. Là, de trois.
Tout à fait, une sorte de cordée. Et alors je suis toujours le dernier de cordée. Mais je suis toujours accueilli et puis je suis entraîné là-dedans.
Mais je savais pas que Ruffin avait cette santé-là, parce que Tesson, on sait que c'est un baroudeur, on connaît ses films, on connaît ses livres, etc. Mais Jean-Christophe Ruffin, qui est pas un gamin, hein, qui a quelques années de plus que vous deux réunis, il continue d'escalader les choses, des montagnes de ce niveau-là.
Jean-Christophe, il a une forme, il est très fort. Hein. Il a commencé à 20 ans à faire de l'escalade et ça fait 35 ans qu'il en fait et aujourd'hui il me met facilement 100 mètres dans la vue. Hein. Il vit beaucoup là-bas. C'est un athlète, hein, Jean-Christophe. Il a trouvé un équilibre comme ça entre l'écriture, ses différentes actions et puis la montagne, le sport.
Quelle vie! Ouais. Médecin, humanitaire, ouais. Écrivain, entrant à l'Académie française, écrivain à succès et donc aussi sportif de haut niveau.
Ouais. Qu'on ne connaît pas bien de lui, hein, cet
non,
aspect.
Non, je savais pas ça. Ouais, moi non. Sa vie est déjà intéressante à raconter, mais ouais. Alors cet aspect-là était méconnu. On va marquer une pause, ouais. Et puis évidemment, on va reprendre le récit, on va redémarrer en bas, au refuge de Saint-Gervais, puis on va remonter lentement, j'ai plein de questions à vous
super.
Poser. À tout de suite.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1. On de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui les aventures d'un parigot, éditeur chez Gallimard, qui à un moment donné de sa vie, il va pas très bien, se lance le défi de gravir le Mont Blanc, alors qu'il fume, qu'il picole, qu'il a le vertige, qu'il a zéro entraînement. Et il y arrive, et il est là, il s'appelle Ludovic Escande, il a raconté toute cette histoire dans un livre qui s'appelle L'Ascension du Mont Blanc, le plus simplement du monde, aux éditions Alary. Alors, bon, prenons les choses au départ. Quand Sylvain Tesson, donc qui est l'un de vos auteurs avec lequel vous dînez, vous dit « Je sens que tu vas pas bien, qu'est-ce que tu voudrais faire? Où est-ce que tu voudrais aller ?» Spontanément, vous lui dites « Je veux aller très haut, je veux aller en hauteur. » Comment est-ce que vous expliquez cette attirance-là?
Parce que j'ai passé beaucoup de vacances dans la vallée de Chamonix avec mes parents l'été et que j'ai souvent vu le Mont Blanc en bas. Et j'étais toujours impressionné par
par ce panorama. Et je ne sais pas pourquoi, je me disais que quand on est tout là-haut, au moins les problèmes doivent être loin et rester en bas. Alors c'est la première image qui m'est venue, d'autant que je savais que Sylvain faisait de l'alpinisme.
Parce que c'est la vérité, il y a des tas de gens qui vont passer des vacances à Chamonix et qui ne dépassent pas l'herbe des alpages.
Mais moi j'ai fait partie de cela et c'est très bien. C'est deux clans en fait, il y a un énorme clan qui est fait de randonneurs dont j'ai fait partie pendant très longtemps et qui est tout à fait honorable. Et puis il y a un autre clan plus restreint de gens qui grimpent. Et ces deux mondes coexistent mais ne se fréquentent pas curieusement.
Alors au début, Sylvain Tesson le dit dans le récit, au début il dit... Tu vis une souffrance psychique, en fait, vous êtes dans ce qu'on appelle une déprime, hein, qui n'est pas forcément une dépression profonde, mais une vraie déprime. Et il vous dit, je vais te confronter à une souffrance physique qui est beaucoup plus dure. Ça, quel effet, ça ?
Eh ben, il a eu bien raison, parce que quand vous êtes en montagne, vous pouvez pas faire autrement que de penser à ce que vous faites, et ça vous arrache à vos questions, à vos doutes, et ça vous ouvre l'esprit. Parce que le corps, vous exige de vous que vous soyez complètement concentré. Et quand vous passez 5 jours à ne penser qu'à ça, eh ben, ça quand même
On est d'accord que c'est de la souffrance.
Ah oui, c'est dur. Hein. Sylvain dit à un moment donné, l'escalade c'est 90% de souffrance et 10% de plaisir.
Alors, ce qui rend votre récit, moi, je trouve très touchant, c'est votre honnêteté. C'est-à-dire que il n'y a pas le côté born again. J'ai été converti à l'alpinisme, donc j'arrête de boire, j'arrête de fumer, je cours tous les jours, je fais des pompes le matin. Vous faites la moitié du chemin. C'est-à-dire que vous gardez votre vie de patachon tout en vous préparant à la montée à l'escalade du Mont Blanc, quoi.
Parce que mon guide lui-même pratiquait cette hygiène de vie. C'est-à-dire, on fait la fête. Et on fait aussi beaucoup de sport. On peut faire les deux en même temps, et il n'y a pas à choisir entre les deux. Et puis, je ne voulais pas renoncer à ça. Et enfin, je pense que je suis profondément convaincu que des gens comme moi, qui boivent et qui fument, ont aussi le droit de faire ce genre de choses. Il n'y a pas de raison que ça soit réservé qu'aux athlètes.
En fait, c'est l'alpinisme, mais version Sylvain Tesson.
Absolument, l'alpinisme gonzo.
Gonzo, c'est-à-dire, au fond, l'alpinisme de ceux qui veulent pas sacrifier leur vie de barreau de chaise.
Oui, alors, évidemment, quand vous êtes là-bas, vous êtes obligé de réduire, mais vous n'êtes pas obligé non plus de changer de vie pour pouvoir faire ça, et je trouve ça sain, moi, de pas renoncer à ce que l'on est.
Alors, c'est ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est que vous partez avec deux écrivains.
Ouais.
Vous qui êtes éditeur, donc vous êtes des gens de littérature, ça apporte quoi dans cette histoire? Le fait que les deux autres partenaires, écartons le guide même s'il est dans le groupe, mais que les deux autres, ceux qui vous encadrent psychologiquement, moralement, qui vous tirent psychologiquement vers le haut, soient des écrivains.
Alors curieusement, j'ai été surpris parce que on a très peu parlé de littérature là-haut. Mais je savais en même temps que, en faisant ce Mont Blanc avec eux, ils seraient, comme moi, sensibles à la dimension symbolique de cette ascension et quasiment une sorte de conquête un peu spirituelle, que ça ne leur était pas complètement étranger. On va chercher au Mont Blanc, à mon avis, un peu plus que l'exploit sportif ou d'aller en haut du sommet. On va chercher quelque chose qui est le petit truc en plus, cette petite chose qui donne du sens.
Mais on le trouve parce que, là je ne l'ai pas raconté, je raconte qu'à des moments vous êtes doublé par des alpinistes, c'est une autoroute. Au mois de juillet, le Mont Blanc, il y a des centaines et des centaines de personnes qui font la même chose que vous. On peut faire vivre une aventure spirituelle sur l'autoroute en plein mois de juillet ?
Absolument, parce que toutes les nations sont représentées. Et vous voyez chez ces gens un respect pour le Mont Blanc, et des Japonais, des Russes, des Américains, tous ces gens sont là parce qu'ils sont venus chercher quelque chose. Et c'est très touchant, je trouve. Et ce qui pourrait paraître comme une autoroute, en fait, on partage ça. Voilà, un peu comme sur les chemins de Compostelle. Il y a beaucoup de gens.
Oui.
Et ben, la magie opère. Parce que on partage quelque chose avec, même si on ne parle pas forcément entre nous, mais on partage quelque chose.
Mais qu'est-ce qui donne ce côté mystique au Mont Blanc ?
Le Mont Blanc, a beaucoup, beaucoup servi de terrain d'apprentissage et d'expérimentation à des alpinistes qui ont eux-mêmes permis des ascensions beaucoup plus difficiles et beaucoup plus hautes dans l'Himalaya. Par exemple, Wimper, Rebuffa sont des gens qui se sont faits ici. Et sans ce passage par le Mont Blanc, jamais...
Ils n'auraient vaincu l'Everest ou l'Annapurna.
Non, voilà. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que des alpinistes du monde entier reviennent chaque année là-bas.
Parce qu'on dit souvent que l'Himalaya est envoûtant, qu'il est envoûtant par la hauteur de ses montagnes, et puis parce que c'est dans une région qui est mystique. Le Tibet est une région mystique. Bon, la Savoie, je sais pas.
La Savoie a une autre forme de mystère. D'ailleurs, quand vous arrivez dans la vallée de Chamonix, vous ressentez cette chose de totalement impalpable. Il y a le Mont Blanc qui se dresse face à vous. Et là, vous ressentez quelque chose que l'on ne ressent pas ailleurs.
On va marquer une nouvelle pause et puis se retrouver... un peu au milieu, là, au moment où vous gobez des anxiolytiques, parce que moi, je me dis, enfin, j'ai jamais pris d'anxiolytique, enfin, ça m'est arrivé une ou deux fois comme ça pour essayer, mais c'est, ça, voilà, ça met un peu dans le coton. Alors, est-ce que c'est le meilleur moyen d'arriver en haut? Je ne sais pas. Tout de suite.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous l'avais promis tout au long de cette saison, je vais vous raconter régulièrement de grandes aventures. Et aujourd'hui, ça m'a amusé de vous raconter finalement une aventure assez ordinaire qui est à portée de chacun d'entre nous. L'histoire de Ludovic Escande, qui est un éditeur parisien qui a escaladé le Mont Blanc. Il n'était pas en grande forme, il a trouvé de l'énergie là-bas. Vous aviez, vous pensiez avant le départ que ça n'était pas à votre portée, parce que notamment vous aviez le vertige. Et la technique que vous avez trouvée pour vaincre le vertige, je ne sais pas si c'était prévu avant ou si c'était un truc que vous avez dissimulé dans votre poche, mais vous aviez des anxiolytiques, qui sont donc des médicaments contre les angoisses, et vous en avez gobé tout le temps.
Oui, parce que j'avais fait une analyse très simple juste avant de là-bas, c'est que le vertige c'est de l'angoisse, et l'angoisse ça se combat avec des anxiolytiques. Donc je m'étais procuré des anxiolytiques, je les avais planqués dans ma poche, et ils n'ont pas su que j'avais ça.
C'est-à-dire ni Sylvain Tesson, ni Jean-Christophe Ruffin ne savent ça.
Non.
Ni le guide, bien entendu.
Ils l'ont su après.
C'est quand même dangereux comme expérience de prendre des médicaments qui sont quand même des médicaments qui modifient la conscience à 3000 mètres d'altitude.
Je leur faisais confiance et je me disais que au fond ça passe ou ça casse.
Ouais.
Voilà. Et puis on verrait bien.
Il y a quand même un truc, c'est que quand on fait le Mont Blanc, on sait que au cas où, il y a l'hélicoptère.
Bien sûr. Il y a le peloton de gendarmerie. Tout le monde est tout
on
monde
sait
là.
Ça.
On le sait, oui.
Ça change tout.
Oui, bien sûr. On est très bien équipé en France pour ça et très fort.
Probablement que c'est très différent dans l'Himalaya. Quand on s'attaque à un sommet, qu'on sait que personne ne viendra jamais vous chercher là-haut.
Ah ben là, dans l'Himalaya, le problème, quand vous en rencontrez un, c'est la sanction, c'est la mort, quasiment immédiatement. Ce qui n'est pas le cas au Mont Blanc, Dieu merci.
D'ailleurs, c'est un problème, parce que trop de gens font appel au peloton des gendarmes de haute montagne, parce qu'ils sont en difficulté dans l'escalade du Mont Blanc.
Et ils sont obligés de réguler maintenant, et donc il y a des contrôles assez sévères. Voilà.
Alors revenons au cacheton, ça doit amplifier l'ivresse, parce que l'altitude déjà crée une forme d'ivresse. Alors en plus, ceux qui ont fait l'expérience de prendre une ou deux fois des anxiolytiques, bon voilà, ça... On se sent bien, hein, on plane un peu quoi.
Voilà, moi j'ai plané et je planais en hauteur, donc c'était très agréable, j'avais l'impression d'être un petit nuage, et je dois dire que ça m'a plu.
Alors sans trahir votre amitié avec Sylvain Tesson et Jean-Christophe Ruffin, mais parlez-moi d'eux quand même dans ce genre d'activité. Bon, Sylvain Tesson, cette histoire a lieu quelques mois avant son accident. Son accident, il est simple, puisque maintenant on connaît le décor, il se passe très exactement à cet endroit-là. Il est sous comme un cochon, comme toujours. Il monte sur le toit du chalet de Jean-Christophe Ruffin, il glisse, il tombe, il se fait très mal et il en sort. Handicapé, il est encore handicapé aujourd'hui, même s'il a cette capacité à contourner le handicap. Est-ce que c'est le meilleur guide, un trompe-la-mort comme Sylvain Tesson ?
C'est à la fois le pire, parce que évidemment, les conditions dans lesquelles on l'a fait n'étaient pas bonnes, et en même temps c'est le meilleur, parce que c'est lui qui a eu l'audace et le courage de m'emmener là-bas. Ouais. Alors que j'étais pas du tout fait pour ça. N'importe quel guide un peu raisonnable aurait arrêté cette expédition tout de suite. Lui, non. Non, non. Ça crée les conditions d'une bonne expédition pour lui.
Oui, oui. Voilà. Alors, n'importe quel guide aurait refusé aussi de couper à un moment donné. Il y a une route, elle est tracée, elle est sécurisée, il y a des pitons, il y a des cordes. Pourquoi diable couper par ce tas de rochers qui vous a fait emprunter ? C'était pas raisonnable. C'est du tesson.
Ouais, c'est du tesson. Et puis, comme il l'a fait plusieurs fois, le Mont Blanc, il s'est dit, oh bah tiens, là, on va faire une petite variante. Essayons.
Oui.
Voilà, on essaye.
Il est comme ça.
Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est toujours le tesson, c'est on essaye et on verra. Ouais. Et puis, s'il y a un problème, on trouvera une solution.
Ouais. Ruffin, à côté, c'est quoi ? C'est le sage ?
Le sage. Et en même temps, il y a quelque chose de très audacieux en lui. Voilà, il y va, il suit. Mais on sait qu'on peut compter sur lui. C'est intéressant aussi de l'avoir dans une...
Mais sur lui, pourquoi ? Parce que médecin, il l'a été il y a très longtemps, il ne pourra pas beaucoup vous aider, je crois.
Il exerce toujours.
Un peu ?
Ouais, ouais, il est retourné faire des missions humanitaires en Afrique il y a 2 ans. Il est toujours
donc
capable...
Il est capable de vous soigner ?
Ah oui, oui.
Mais ce n'est pas lui qui vous soigne le pied ?
Ah non.
C'est Daniel.
Oui, oui. Je n'osais pas le dire à Jean-Christophe que j'ai mal au pied parce qu'il m'aurait engueulé, il m'aurait dit... Oui. Enfin,
vous aurez amputé.
Oui, voilà. Exactement, il m'aurait amputé des deux jambes.
Et d'ailleurs, cette histoire de chaussures, il y a une part d'amateurisme là-dedans qui est quand même... C'est-à-dire, vous savez bien qu'il ne faut jamais mettre des chaussures trop grandes et surtout mettre 2 paires de chaussettes parce que le frottement échauffe et c'est le meilleur moyen d'avoir des ampoules.
C'est vous dire...
On dit ça en colonie de vacances, à des gamins de 12 ans, vous savez ça.
Non mais j'ai 12 ans, là, à ce moment-là. C'est vous dire le niveau d'insouciance. Et je suis sincère quand je vous dis, je leur ai totalement confiance.
C'est ça, vous remettez, au fond, votre corps dans leur...
Ce domaine de la grimpe est tellement loin de moi que je me dis que je ne peux rien vouloir. Juste, voilà.
Alors est-ce que vous diriez, après cette expérience, que le Mont Blanc est à la portée de tout le monde ?
Je confirme que le Mont Blanc est à la portée de tout le monde du moment que l'on s'entraîne pour, que l'on y accorde du temps et que l'on le fasse avec un guide et que l'on soit bien encadré. Et oui, je le confirme.
Faudrait un guide et un bon copain pour la stimulation psychologique, quoi.
Absolument, c'est plus sympa de le faire à deux, c'est plus stimulant. C'est une expérience comme ça, ça se partage. Et puis, le guide sera... même renoncer si c'est pas possible, et en tout cas il est formé pour ça et il vous emmènera là-haut, et de l'entraînement et du désir.
Si vous n'aviez pas fait ces 8 mois d'entraînement, c'était impossible, ou vous vous dites oh, ça aurait presque pu le faire?
Ça aurait presque pu le faire.
Ah, vous êtes vachement honnête, c'est ça qui est intéressant.
Ça aurait presque pu le faire
dans votre récit.
Vraiment.
Ouais, ça aurait presque pu le faire.
Ouais.
Quelqu'un qui a une bonne santé avec un bon guide, sans un entraînement, peut y arriver.
Oui. Ouais. Oui, je vous le dis honnêtement, j'ai pas fait un truc incroyable. Ouais. Et quelqu'un qui a une bonne santé, oui. D'ailleurs, j'ai connu une femme qui l'a fait. Bon, elle ne fume pas, elle ne boit pas, mais elle n'avait pas d'entraînement particulier, elle avait une bonne condition et elle a réussi à le faire.
L'histoire serait formidable si à la fin vous retrouviez votre femme. Ça n'a pas été le cas.
Non, mais j'en ai trouvé une autre.
Ah, ben voilà. Donc voilà une histoire qui se termine pas mal. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre maintenant que vous avez exploré les hauteurs, d'autres qui vous apporteraient la même dimension ?
Eh bien, traverser l'Atlantique à la voile. Je pense que...
C'est le pendant.
Exactement. L'autre grande réserve de nature et de force, de sauvagerie et de mystère, c'est la mer, l'océan. C'est incroyable, là aussi. Il se passe quelque chose quand vous traversez l'Atlantique.
Donc c'est dans un coin de votre tête ?
Ouais.
Il vous manque le tesson de la mer ?
Voilà. Ouais.
Oui, il fait pas la mer, lui. Hein. Il fait le cheval,
Il a fait la mer aussi.
Il a fait Baïkal, mais...
Il a fait la mer,
figurez-vous. Il a fait la mer aussi.
Ah ouais, il a traversé la mer sur le bateau d'Antoine Gallimard, et ça a été une catastrophe.
Bon.
Il le racontera un jour.
Il le racontera un jour. En tout cas, c'est un endroit où on picole aussi, hein, les bateaux, donc...
Le capitaine Haddock pourrait vous le dire.
Oui, le capitaine Haddock pourrait le dire. Merci Ludovic Escande d'avoir partagé cette aventure ordinaire, mais finalement intéressante parce qu'elle est ordinaire, avec nous.
C'était On de la Traconte sur Europe 1. Rendez-vous demain 14h pour découvrir un nouveau récit. Une histoire passionnante, bouleversante, celle des époux Bach, Ginette et Claude, qui au début des années 50 font des enfants. 1, 2, 3, 4 et bientôt 5, alors qu'ils ont à peine 23 ans. Des grossesses qui finissent par plonger Ginette dans une dépression. Et puis un jour, la petite quatrième meurt par manque de soins. Une affaire qui a amorcé à l'époque un débat sur la contraception en France. À suivre, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit cet après-midi l'homme d'affaires et d'influence issu de l'inspection générale des finances à la Minc. A tout de suite.